Surpris par la nuit.
Il y a 2 ans, la revue française Action Poétique reproduisait la couverture du numéro de février 1931 de la revue américaine Poetry. Ce numéro, le 5e du volume 37, était intitulé « Objectiviste 1931 ». Examinons cette couverture. De haut en bas, le titre de la revue, le dessin d'un cheval ailé en plein élan, cliché poétique des plus convenus, puis, en petit caractère, le sommaire, poème, essai, dialogue, se déployant selon un programme établi par le poète Louis Zoukowski, qui signait notamment un texte manifeste intitulé « Sincérité et objectivation », dans lequel il considérait le poème en tant qu'objet en formation, fruit d'un travail où la complexité du détail doit se résoudre en un objet unique. Ce mouvement, objectiviste donc, a été de courte durée. Les poètes rassemblés dans ce numéro de Poetry ont suivi chacun un itinéraire propre, en toute discrétion. Mais leur influence n'a cessé de croître, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, en France tout particulièrement. Le numéro d'Action Poétique d'avril 2001 était considéré à Lorraine Niedecker. L'exemplaire de Poetry que je viens de décrire était annoté de sa main. L'œuvre poétique de Lorraine Niedecker est dans la résonance de l'objectivisme. Elle admirait Zoukowski, qu'elle rangeait dans sa bibliothèque à côté de Lucrèce, Thoreau, Emily Dickinson, William Carlos Williams et les haïkus. Elle décrit l'homme ainsi dans une lettre à Sid Corman de 1966. J'ai vu le film sur Louis Zoukowski tout à fait par hasard. Je reprisais des chaussettes et c'est alors que je l'ai vu avec sa casquette et son pardessus. Cette démarche chaloupée et dansante que tu connais. Il parlait merveilleusement entre les lectures, si naturellement, avec une pointe d'humour mélancolique. Sa longue main souple et squelettique se tendait vers un livre ou désignait une couverture jetée sur un divan à côté de lui et il disait « Je ne crois pas que ma poésie soit meilleure que ça ». Bien d'autres revues se sont chargées de nous faire découvrir ces poètes. Siècle à main, Les Lettres Nouvelles, Europe, Banana Split, Java et récemment IF, la revue de Liliane Giraudon, Henri Deluy et Jean-Jacques Vuitton, qui a publié un numéro remarquable consacré à Charles Reznikov, poète qui déclara un jour, alors qu'on le pressait de caractériser la démarche objectiviste, « Je vois une chose, elle m'émeut. Je la transcris comme je la vois. Je m'abstiens de tout commentaire. L'émotion est là, dans le choix du matériau. » Le troisième grand poète de l'objectivisme, George Open, précisait « Faire du poème un objet, à l'encontre du romantisme agonisant, chercher d'atteindre à une forme. » Comme Karl Rakosi, le quatrième mousquetaire, il s'est arrêté d'écrire un long moment avant de rompre le silence, sans tapage. Parmi les introducteurs, commentateurs et traducteurs des objectivistes, Serge Fauchereau, Jacques Roubaud, Yves Dimano. Ils sont nos invités ce soir. La voix d'Emmanuel Marchadour s'associera au leur pour dire quelques poèmes dans des traductions françaises les plus diverses, contradictoires et aujourd'hui encore accessibles. Les objectivistes américains par Christian Rosset. Jacques Roubaud, cette découverte des objectivistes en France est relativement tardive. Ça se passe dans les années 60.
Oui, elle est tardive. Elle a été tardive aux États-Unis, où ils avaient été complètement oubliés. Et en France, elle est due essentiellement à un homme, qui est Serge Fauchereau. Et je me souviens avoir été ébloui par la lecture des 2 livres de Fauchereau, enfin son essai à minuit et son anthologie chez Nadeau. Et à ce moment-là, je me suis mis à lire et j'ai trouvé les objectivistes.
Serge Fauchereau, on le sait, vous êtes allé aux États-Unis à la rencontre de poètes dont le nom était à peine connu ici. C'est quand même une histoire assez singulière.
C'est pas tout à fait comme ça. En fait, on pourrait presque dire, si ça me paraissait immodeste, que ce sont eux qui sont venus à ma rencontre. J'avais fait paraître un article, c'était mon tout premier article, sur la poésie américaine. Et ce texte, qui était paru dans la revue Critique, un texte sur Cummings, avait été remarqué par un éditeur américain, l'éditeur de New Directions, qui m'a écrit à la revue pour me dire, écoutez, je viens de lire votre texte, je le trouve très intéressant, vous semblez connaître bien notre poésie. Si vous voulez, je vous envoie des livres. Je lui ai répondu, oui, d'accord, ça me ferait vraiment plaisir. Et il s'agit de Jay Lachlan, qui maintenant malheureusement est mort, qui était l'éditeur de Pound, Williams et tout cela. Et tous les objectivistes. Et il m'a envoyé des livres, et tenez-vous bien, il m'a envoyé non seulement les livres de sa propre maison, mais les livres des autres éditeurs, quand il pensait que ça allait m'intéresser. C'est tout de même extraordinaire. Cet homme était tout à fait fou et généreux. Imaginez Gallimard vous envoyant les livres de Flammarion. Enfin, ça paraît extraordinaire.
C'était en quelle année?
Ah, c'était en 64-5. Donc, parmi les livres qui m'ont été envoyés, j'ai reçu des livres dont il me disait que lui ne n'arrivait pas à les vendre, personne qui n'avait pas de critique, mais qu'à son avis, c'était bien. Et c'était, il m'a envoyé un Reznikov et un Open. J'ai lu ça, je lui ai dit, écoutez, moi, je trouve ça épatant. Ça me surprend, je ne connais pas, ça me semble très intéressant, je vais écrire là-dessus. Et je lui pose des questions. Mais il me dit, écoutez, plutôt que poser des questions à moi, posez les questions à eux directement. Et ils me donnent leurs adresses. J'ai écrit. Et voyant une lettre arriver du bout du monde, comme cela, d'un inconnu habitant la Charente-Maritime, ces gens ont été touchés. Et ils m'ont répondu. Et ce qui se passe, vous savez, c'est qu'on répond beaucoup plus volontiers à un étranger dont on imagine qu'il ne sait pas, on s'explique mieux auprès de lui qu'on ne le ferait auprès d'un de ses concitoyens. C'est plus facile. Il est loin, on suppose qu'il ne connaît pas, alors qu'on imagine toujours que les concitoyens connaissent bien, ce qui est une erreur totale. Donc il prenait soin de m'envoyer de longues lettres, m'expliquer, bon, ces lettres ont été publiées depuis pour la plupart, mais c'était extrêmement intéressant de voir Open, par exemple, de s'expliquer longuement sur comment ça s'était passé avec Pound, les relations avec Cummings, avec Williams, tout cela, ce qu'il n'aurait pas fait auprès d'Américains, je suppose.
Et parmi tous ces poètes, parce que la poésie américaine du XXe siècle est très riche, parmi ces poètes, les objectivistes m'ont fait un effet considérable. Et il y a eu un deuxième déclic, c'est cette revue extrêmement rare qui paraissait à Londres, et qui était celle de Anne-Marie Albiac et Claude Royer-Journoux, Siècle à main. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été le départ. À partir de ce moment-là, moi, je fais comme on fait généralement, j'ai essayé de me procurer les livres. Ce n'était pas tout très, très simple. Bon, je suis allé aux États-Unis, j'ai acheté, j'ai commandé, et puis je me suis fait ma bibliothèque objectiviste.
Alors, c'était une rencontre de quel ordre? Parce qu'évidemment, en tant que poète, en France, dans les années 60, il y a toute cette culture du XXe siècle française qui est très, très importante. Est-ce que tout d'un coup, ça arrivait comme une bombe à retardement ou quelque chose qui allait remettre des choses en question? Ou est-ce que ça s'accordait dès le départ à la sensibilité du moment, aux recherches qui étaient en cours?
Ça, c'est un peu difficile à dire. Dans mon cas personnel, bon, moi, j'ai passé un certain temps à essayer de m'éloigner donc du nuage surréaliste, donc grâce par exemple à Bonnefoy et à Duboucher et à Queneau, enfin pour simplifier. Et puis, mais là, aller chercher ailleurs, aller chercher loin, c'est toujours intéressant. Et disons, les objectivistes étaient particulièrement quelque chose qui ressemblait à rien de ce qui s'est fait ici. Alors, il y avait aussi le fait qu'ils apparaissaient comme ayant été les disciples d'Ezra Pound. Et c'est aussi le moment où, après les difficultés rencontrées pour la lecture de Pound à cause de sa position, surtout à la fin de la guerre, on s'est remis à lire Pound. Donc, alors, les objectivistes sont aussi apparus un peu comme étant dans la ligne de leur père, puisque Ezra Pound était leur père.
Le petit trou dans l'œil. Williams appelait cela le petit trou. Nous a exposés nus au monde et ne se refermera pas. Le monde, confusément, regarde à l'intérieur. Et nous composons les couleurs et le sens du lieu. Et il y a ceux qui, en son intérieur, sont si violents et si seuls qu'ils ne peuvent reposer.
Yves Dimano, vous avez beaucoup traduit non seulement les objectivistes, en particulier Open, mais aussi les poètes qui étaient là juste avant Ezra Pound, William Carlos Williams. Alors pour commencer, quel est le lien entre les objectivistes et ces deux aînés précisément ?
Ah ben c'est un lien direct, si je puis dire. On ose à peine employer le terme de filiation, mais en tout cas, les objectivistes eux-mêmes, enfin leur noyau historique, c'est-à-dire Zoukowski, Open, Reznikov, se sont ouvertement, dès l'époque, dès les années 30, réclamés d'une sorte d'héritage déjà de Pound et de Williams, ce qui d'ailleurs est très apparent dans leur œuvre au tout début, dès les années 30. Alors,
qu'est-ce qu'on peut dire déjà, par exemple, de William Carlos Williams qu'on
Oui, alors, c'est-à-dire, il y a deux... On a tendance, évidemment, à mettre, si je puis dire, dans le même sac Pound et Williams, alors que leur poétique et même leur position éthique et autre sont quand même très, très différentes. Il est évident que sur un plan strictement poétique, et notamment prosodique, les objectivistes sont plus des héritiers de Williams, No Open en particulier, et à une prosodie, une poétique qui est vraiment dans la lignée directe de celle des poèmes de Williams des années 20. Et bon, Zoukowski doit beaucoup à Pound, l'a beaucoup revendiqué aussi, mais enfin, très, très clair quand on regarde notamment le début de leur œuvre à tous, c'est de voir que leur œuvre débute juste après ces grandes œuvres qui les ont précédées et qui sont les unes comme les autres, enfin, surtout dans le cas de Pound et Williams, des œuvres locales, c'est-à-dire américaines. Ce n'était pas du tout le cas, par exemple, de Williams et de Pound eux-mêmes, qui, eux, partaient d'un héritage qui était beaucoup plus européen, beaucoup plus anglais en particulier, enfin, qui était dans l'héritage de la littérature et de la poésie historique classique anglaise, enfin, de langue anglaise, et pour qui, par exemple, même l'héritage de Whitman n'a pas été très significatif. Alors que bon, ils sont, Pound en particulier est un grand héritier des pré-raphaélites, de Swinburne, de Browning, enfin de toute la poésie anglaise du 19e siècle. Or, nos objectivistes, eux, sont dans une espèce de, j'allais dire, de virginité absolue au sens de terrain vierge, c'est-à-dire ils sont sur place, si je puis dire, à New York pour l'essentiel au départ. Enfin, c'est leur camp de base et bon, ils travaillent dans un contexte local, avec un héritage local.
Justement, profitons, vient de paraître le premier livre, je crois, important de William Carlos Williams, qui est Corée aux Enfers,
oui,
qui date du début des années 20, je crois.
Il est paru originellement en 1920, oui.
1920, qui vient de paraître maintenant aux éditions Virgile, dans une traduction d'Auxemery.
D'Auxemery, tout à fait.
Et qui est quand même un livre étrange, et qui serait donc une...
Ah bah c'est un livre tout à fait étrange, Corinne Hell, enfin Corée aux Enfers, parce que il est étrange non seulement dans l'histoire de la poésie américaine de cette période, mais il est étrange dans l'œuvre de Williams. C'est-à-dire, c'est un livre qui est pratiquement sans précédent dans son œuvre. Il a pas 40 ans, Williams, quand il publie ça, il a 35 ans, quelque chose comme ça. Et ce qu'il va faire après est vraiment sans grand équivalent, en tout cas en poésie, puisque ce sont surtout des proses. Enfin, c'est un livre de prose et une prose plutôt qu'on pourrait davantage rapprocher, par exemple, des chants magnétiques de Breton et Soupeau. C'est une espèce d'écriture automatique anticipée, puisque le surréalisme n'est pas encore né à ce moment-là. Il n'y a pas de théorie de l'écriture automatique officielle, si on peut dire. Et Williams fait cette espèce de prose un peu délirante, verbale, qui se réfère aussi bien d'ailleurs aux improvisations de Kandinsky en peinture que aux illuminations de Rimbaud. Enfin, donc c'est quand même un travail travail très étrange. De tout ça, par exemple, nos objectivistes ne tireront pas grand-chose. Mais par contre, ils vont beaucoup se servir des poèmes que Williams va se mettre à écrire à partir de ce moment-là, et dont le premier ensemble notable va paraître quelques années après Corée aux Enfers, dans un livre qui est absolument, à mes yeux, fondateur de toute la modernité poétique américaine, et qui s'appelle Spring and All, qui est paru, curieusement, a été imprimé en France en 1923 à Dijon, par un petit éditeur américain qui était basé en France, comme ça c'était le cas à l'époque, et qui est un livre absolument majeur, qui fait alterner d'ailleurs des proses et des poèmes.
C'est le soleil, la table, avec le dîner, dessus, car il s'agit de la même chose. Ces compartiments ont leurs ingénieurs, qui amènent de la colle forte aux avions. Ou pour les vieilles dames, qui reprisent des chaussettes, des agrafes et des élastiques rouges. Qu'est-ce que la faim pour les insectes qui sucent des étiquettes gommées? Car voici l'éternité. À travers son cadran, nous découvrons un rouleau de tissu transparent. Mais les étoiles sont en carton, rondes, avec une bordure d'aluminium et un anneau pour les attacher à une malle de vacances.
Bon, ben les objectivistes, c'était quelques poètes, une sorte de mouvement poétique, et donc c'est objectivisme, pour moi, est inséparable de l'œuvre d'un certain nombre de poètes. Alors, nommons-les, il y a Louis Zoukowski, il y a George Open, Karl Rakosi, Charles Reznikov, et qui eux-mêmes s'étaient rassemblés sous le patronage de Pound. Et puis il y a ceux auxquels on les associe par plus ou moins directement, qui sont l'anglais Basil Banting et Laurie Niedecker. Alors Banting et Niedecker sont les plus ignorés de ce groupe. Et puis on peut dire comme une sorte de, peut-être pas cousin, mais plutôt de jeune oncle, William Carlos Williams, le premier Williams.
Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Est-ce qu'il y a réellement une relation entre eux qui ferait qu'ils formeraient un vrai cercle ou un vrai mouvement? On a l'impression que c'est un mouvement presque hasardeux.
On pourrait toujours prendre comme élément de, sinon de définition, mais de repère, une formule de Williams. No ideas, but in things. Pas d'idées, sinon dans les choses. Bon. Alors, on peut prendre ça, et si on prend ça, eh ben c'est évident qu'il y a un livre d'Open, qui est son premier, qui exprime ça, enfin, qui correspond tout à fait à cette idée-là. C'est Série discrète, Discrete Series, et je me souviens, ayant découvert donc que ces individus existaient, être allé chercher à la Bibliothèque nationale où il n'y avait rien, sauf que Open, je pense, lui-même avait offert un livre à la nationale, et j'ai eu la joie mêlée de nostalgie et de tristesse de couper les pages de Discrete Series à peu près une bonne trentaine d'années après que ça ait été mis à la Bibliothèque nationale.
Il faut dire, les quatre objectivistes étaient très différents les uns des autres. J'ai eu la chance de connaître les quatre. Open était celui qui avait plus l'air d'un aristocrate. Imaginez un grand monsieur mince, à moustache, et lunettes, très droit, genre un peu colonel anglais en retraite, vous voyez. En fait, c'était qu'une apparence, comme souvent les gens n'ont qu'une apparence, à l'intérieur ils sont autrement. Mais il y avait chez lui une sorte de calme, de rétention qu'il n'y avait pas chez les autres. Pour vous en décrire un autre, je dirais que Reznikov, par exemple, était lui au contraire familier et extrêmement drôle, extrêmement amusant. Au contraire, Zoukowski avait la réputation d'être un grognon qui jetait les gens dehors, qui pouvait même être très rude. J'ai eu la chance de ne le voir que par son côté, moi, extrêmement positif, c'est-à-dire l'homme gentil, qui me disait, qu'est-ce que vous faites ce soir? Vous êtes tout seul? Va rester à manger avec nous. Il se trouve que j'étais son voisin. Pur hasard, hein? Pur hasard.
C'est étonnant, c'est grand les États-Unis.
C'est grand les États-Unis, je me suis trouvé être son voisin.
À quel endroit?
Jefferson. Port Jefferson.
Où est-ce que c'est, Port Jefferson?
C'est sur Long Island. C'est à côté de l'université de Stony Brook, où j'étais professeur de littérature américaine. Et bon, bah, les endroits où loger, qui sont bien, il n'y en a pas des masses. À partir du moment où il... Son fils enseignait, Paul, à Stony Brook, où j'étais. Il enseignait au département de musique, lui. Il voyait peu son père, soit dit en passant. Et je logeais à un endroit qui s'appelle Belle Terre. Et la maison d'à côté, on m'a dit, c'est Zoukovsky, mais vous savez, il vaut mieux pas y aller, parce qu'il jette les gens dehors. C'est quand même un peu fort. Voilà un homme que j'ai traduit, qui était pas de raison qu'il me mette à la porte. Bon, vous savez pas, le Kouachak a fait un numéro spécial sur lui, a été jeté, pas eu le droit d'entrer. Bon, je tente ma chance. Était-il bien luné ou quoi? J'en sais rien. J'ai été reçu et après, j'y allais tous les jours. Tous les jours. Avec la cérémonie d'aller faire les commissions. Il ne conduisait pas. Donc, pour aller au supermarché, c'était un problème. Alors, c'était le samedi, par exemple. Tous les samedis, on allait faire les courses au supermarché ensemble. Bien sûr... Louis ne faisait pas les commissions, il accompagnait, c'est Célia qui faisait les commissions, et lui me tenait des discours sur la poésie, sur le quotidien, l'importance de voir, et tout cela, et des discours sur comment traduire. J'étais beaucoup plus jeune que maintenant, j'étais mal élevé, je répondais, je ne suis pas d'accord, bon, enfin, et lui acceptait de répondre au jeune homme impertinent que j'étais pour lui, quoi.
L'impression d'une sorte, d'un côté, un côté aristocratique, un côté marginal en même temps, comme une sorte comme ça d'attitude à la fois très élevée et en même temps complètement à l'écart. Complètement...
Oui, il était très, très retiré. C'est vrai, il était très retiré, il fréquentait très peu de gens. J'avais essayé de lui faire connaître des gens. Il était très seul, vous savez, je me suis dit, mais quand je suis pas là, qui est-ce qui va s'occuper d'eux? Ils étaient deux vieilles personnes, ben oui, ils étaient tous les deux. Et je lui ai dit, bah, écoutez, il y a le poète Louis Simpson qui habite, lui aussi, pas loin d'ici, à 150 mètres. Ils se sont rencontrés. Louis a fait les 100 mètres qu'il séparait d'un autre poète, qui n'était quand même pas n'importe qui, prix Pulitzer. C'était quand même pas, je ne l'emmenais pas chez un obscur poète de quatrième ordre. Et puis, ça n'a pas pris vraiment. Ils sont restés en bons termes, très courtois, mais il n'a jamais demandé le moindre service à Louis Simpson, qui pourtant en âge était plus proche de lui, et puis qui restait là en permanence. Bon.
Alors, de Louis Zoukovsky, les chemins, les sillages que les bateaux laissent, et après qu'ils sont hors de vue, les sillages qu'ils ont laissés dans l'eau. Boucle, sentier tout droit, achevé en miroir, marée, nuages, bleu des jours profonds, des portions de ciel sans nuages, courant, sept gris ou ombre plus noire, contre le va-et-vient plus clair que tisse, les huit mercures s'évanouissant, ou, imaginables les visions, instantanément durée et soleil, et l'argent bondissant comme pointe de sein lapidée de pluie de l'eau même.
Quand vous présentez une traduction que vous avez faite des poèmes d'Open, Yves Dimano, vous commencez par dire « le mot comportait sans doute une ambiguïté, du moins pour nous Français ». Est-ce que ça veut dire que l'objectif en France a une autre signification qu'en Amérique?
Oui, il est probable. C'est-à-dire que on a un problème aussi de décalage temporel. Nous, on a commencé à s'intéresser à ça en France à partir des années 60, disons. Hein,
Du nouveau roman, avant, en littérature objective.
Oui, oui.
Texte de Barthes bien connu.
Mais si vous voulez, il y a un problème, de toute façon, derrière ce mot depuis le début, en ce qui concerne les objectivistes, parce que au fond, ils n'ont jamais véritablement cherché à faire une espèce de comment dire, même pas de mouvement, mais bon, d'école ou de manifeste. Ils ont, quand on voit ce qu'ils ont écrit les uns et les autres, c'est quand même des choses assez différentes, même si on voit bien qu'ils ont des points communs ou des points d'hostilité communs par rapport à ce qui se faisait dans leur temps. Donc il y a aussi un regroupement qui se comprend dans ce sens-là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait qui relève véritablement de ce regroupement objectiviste? Ils ont surtout fait une maison d'édition qui s'appelait The Objectivist Press. Et je trouve que c'est leur geste le plus significatif. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des manifestes et tout, ils ont fait des livres avec un intitulé. Et je vous rappelle cette magnifique formule, magnifique par sa brièveté et son efficacité que Reznikov avait trouvée pour définir l'Objectivist Press. Il disait l'Objectivist Press regroupe des écrivains publiant leurs œuvres et celles d'autres auteurs méritant à leurs yeux d'être lus. C'est pratiquement le meilleur manifeste objectiviste.
Un noir entra dans le restaurant et s'assit à une des tables vides. Le garçon lui dit : Je ne peux pas vous servir ici. C'est contraire au règlement de la maison. Allez de l'autre côté. La salle était divisée en deux. Le côté restaurant avait des tables couvertes de nappes. Il y avait des verres sur les tables, des serviettes sur les verres, un ventilateur électrique au-dessus. Les tables côté saloon étaient nues. Des tables de café, comme on en trouve d'habitude dans les saloons.
Ce qui serait peut-être ce que j'aurais tendance à appeler un objectivisme radical, c'est l'entreprise de Reznikov. L'entreprise de Reznikov dans sa série Témoignages, Testimony, où il fait une sorte de portrait des États-Unis à la fin du 19e siècle, et ceci en prenant en allant chercher des témoignages de faits divers, de procès, de choses comme ça, donc de choses de tribunaux. Et il, à partir de ça, par des prélèvements stricts, et il opère ce que j'appellerais une compactification. Et donc ça, c'est l'objectivisme radical est vraiment cette compactification qui apparaît dans Témoignages.
Ce n'est pas tout à fait du ready-made, ce n'est pas tout à fait ce qu'a fait Sandra Ars, mais ça se rapproche.
Non, parce qu'il y a, disons, il y a une intention unifiante. Bon, bien sûr, on peut dire d'une certaine façon, ça a une parenté avec Kodak.
Kodak de Sandra Ars, qui avait repris le mystérieux docteur Cornelius. Absolument. Qui l'avait
redécoupé. Et d'une certaine façon, on peut dire que les haïkus de Cage à partir du journal de The Thoreau, ça entre là-dessus. Mais dans le cas de Reznikov, c'est pas ça, parce que c'est pas quelque chose qu'il prélève et qui n'a en fait finalement plus de rapport tellement avec le contexte. Quand Sandra prend dans des romans, Cage prend dans Thoreau, c'est vrai que ça rend compte du contexte, mais Reznikov, lui, il fait une présentation compacte de tel événement de la vie des États-Unis. Jim entra dans la maison, il prit une paire de courroies, il alla ensuite dans l'écurie, il mit une courroie sur le cheval, il fit sortir le cheval de l'écurie et l'attacha à la clôture. Il passa la boucle de l'autre courroie autour du cou du cheval et se mit à tirer. Le cheval commença à faire un bruit vraiment curieux. On trouva le cadavre le lendemain matin, à quelques mètres de la porte de l'écurie, le cou juste derrière la tête meurtrie. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment éloigné d'une ligne de la poésie américaine. Simplement, il l'a radicalisé. Il l'a radicalisé puisqu'il ne porte pas de jugement évident, explicite. Il fait parler les choses et se borne à les mettre en vers. Et c'est dans le choix des éléments et la mise en vers qu'a lieu le travail. Et
elle se fait comment cette mise en vers, justement? Est-ce qu'elle suit une grande liberté ou est-ce qu'au contraire...
C'est du vers libre général, du vers libre traditionnel, qu'on peut presque qualifier maintenant de traditionnel. Il n'y a pas d'enjambement, etc. Sauf que le choix, outre le choix des éléments qui sont choisis, le choix des allées à la ligne est toujours significatif. Ça fait ressortir. Alors, c'est une très, très grande entreprise. Je regrette que la publication par Paul Ostrakowski, quand il était Hachette, était une catastrophe financière, que la deuxième partie n'ait jamais pu être entreprise réellement. Moi, j'en ai traduit un peu, mais bon, c'est paru en revue. Et donc, c'est quasiment ignoré aujourd'hui.
Ce sont des poèmes qui, c'est un mot qu'il est malaisé d'utiliser de nos jours, mais qu'on pourrait presque appeler réalistes à certains moments, en tout cas qui sont très en rapport avec une forme de regard sur la vie quotidienne. Si vous voulez, c'est quelque chose qu'on pourrait par exemple rapprocher chez Open ou chez Reznikov des tableaux d'Hopper, c'est-à-dire... quelque chose qui essaye de capter un moment, un éclat, un fragment de vie ordinaire, de vie banale. Mais pas du tout pour la louer, si vous voulez, pour en faire quelque chose de grandiose et de glorieux, mais au contraire pour en capter l'intimité, le secret caché, quoi, si on peut dire. Enfin, la lumière cachée, plus exactement. Égrener comme un chapelet les chromosomes, l'amour dans les gènes, sinon il ne naîtra plus chez nous un seul homme sensé. J'ai vu trop de jeunes gens mûrir, d'amis jeunes vieillir, tout ce qui nous échappe, les sources et l'os à nu, disons-nous, prenaient place comme la masse des collines. La masse fondue du soleil, choir donc au fond de soi, la réalité, l'œil aveugle, qui nous enseignait à regarder, ton épaule appuyée contre la portière d'une voiture, anonyme comme l'été, avais-je écrit. Il ne s'agissait pas de toi, mais d'une femme, quoi qu'il en soit, clarté, clarté, la clarté est assurément la plus belle chose au monde, mesurée, mesurante, je n'ai pas et n'ai jamais eu d'autre motif en poésie que d'atteindre à la clarté. »
Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec eux du sens de ce mot objectivisme? Est-ce qu'ils le considéraient comme simplement la marque de cette année 1931, bon, où ils ont été présentés comme ça? Ou est-ce qu'ils l'ont gardé toute leur vie comme quelque chose d'essentiel?
Je crois qu'ils le prenaient assez littéralement. « No ideas but in things », dit William Carlos Williams, c'est-à-dire « il n'y a d'idées que dans les choses ». Et les choses étaient entendues comme la chose sociale, les faits, les événements, c'est-à-dire les choses contrôlables, visibles. Un Nord-Africain qui est arrêté dans le métro pour un contrôle, comme ça, c'est un fait, exactement comme ce livre, ou comme une casserole qui est sur le feu. C'est un fait, c'est un objet social. Voilà, c'est ainsi qu'il l'entendait. Et c'est intéressant parce que ça rejoint les idées des romanciers. Vous trouvez cette idée que l'objet avance. Dans Zoukovsky, vous suivez un chien, par exemple. Ou plutôt, c'est lui qui suit le chien.
Le chien n'étant pas un objet, mais c'est l'objet du regard.
C'est l'objet du regard et c'est un fait. C'est contrôlable, c'est visible, c'est concret. Et on peut suivre je parlais tout à l'heure de Studs Lonigan. Vous suivez la jeunesse de ce Studs Lonigan. Vous savez qu'au départ, il est foutu. Il sort d'un milieu pourri. Il ne pourra aller que vers un peu plus de pourriture. On sait que ça finira mal, son histoire. Et ça, ce sont des faits.
Il y a un attachement au quotidien, une forme d'humilité du regard posé sur ce qui n'est pas forcément spectaculaire. Il y a un rejet du spectaculaire. En même temps, chez Zoukovsky,
C'est plutôt le rejet du pathos.
Rejet du pathos,
oui. Ouais. Je crois. Et pas d'explication. On n'explique pas. « Myself, I sing. Me, he says, hand on his chest. » Actually, his shirt. And there, perhaps, the question. Pioneers, but trailer people. Wood box full of tools. The most
American, a sort of shrinking in themselves, a less than adult, old, a pocket knife, a tool, and I here talking to the man. The sky that down along the road and all I've seen is not myself. I think myself is what I've seen and not myself.
C'est George Open?
C'est George Open.
Alors, c'est une réponse à Walt Whitman. C'est, vous savez, le « myself, I sing », etc. Je me chante moi-même. « Moi », dit-il, la main sur la poitrine. Sa chemise, en fait. C'est là, peut-être, la question. Pionniers, mais les routiers et leurs caisses pleines d'outils. Bien plus américains. Une sorte de repliement en eux-mêmes. Un moins qu'adulte, vieux. Un couteau de poche, un outil. Et moi, ici, parlant de l'homme. Le ciel qui s'illuminait au bord de la route et tout ce que j'ai été n'est pas moi-même. Je pense que moi-même, c'est ce que j'ai vu, et non moi-même. Ça répond à votre question quant à la place de l'objet. Vous voyez, il met sa main sur sa chemise, en fait. Et toute la question est là.
Alors, le grand, le plus grand de tous, en dehors de Reznikov, c'est Zhukovski. C'est Zhukovski. Alors, Zhukovski, c'est vraiment un monument.
C'est celui qui a écrit le plus, là. Je vois que, Jacques Roubaud, vous avez amené une tonne d'ouvrages de Zhukovski.
Ah ben, les autres ont écrit beaucoup. J'ai les œuvres complètes de Poétique d'Open. Reznikov, il y a énormément d'autres choses. Hein. Donc, j'ai amené un morceau de ma bibliothèque objectiviste. Et donc, bon, en allant rapidement, j'ai pris surtout des Zhukovski. Bon. Mais en fait, c'est vrai, Zhukovski a écrit beaucoup. Et il est... Il a une particularité, c'est qu'il s'est défini par rapport à son maître Pound, et il a fait un peu un parcours qui est aussi une critique de Pound. Et à mon sens, Zhukovski, c'est peut-être, pour moi, le plus grand poète des États-Unis au XXe siècle.
C'est pas rien, alors.
Non.
Donc, il va falloir peut-être défendre ce point de vue.
Oui. Alors, disons que... il est né en 1904, l'année prochaine, c'est son centenaire. Bon, donc son œuvre commence à la fin des années 20, et à un certain moment, il entreprend la composition d'un très très long poème, en un certain nombre de parties, 24, dont le titre est l'article indéfini E.
Qui s'écrit A. C'est l'article, c'est pas la lettre.
Je crois que c'est l'article. Bah, on peut le comprendre aussi comme la lettre, hein. Mais c'est l'article. C'est l'article. Par ailleurs, au même moment, d'ailleurs, il écrit un autre, quelque chose qui est un seul poème, que je viens de traduire et qui va paraître dans la revue de Jean Dev, fin, et qui est poème commençant le. Et donc, c'est entre ces deux articles, d'une certaine façon, que s'inscrit son œuvre. Bon, disons quelques mots d'autres choses. Il y a les œuvres poétiques, les chants poèmes, qui font quand même, dans l'édition complète, un assez fort volume. Il y a un extraordinaire ouvrage de poétique générale, qui est un commentaire de Shakespeare. Un commentaire du personnage de Shakespeare, et qui, je suis très content d'avoir l'édition originale, qui est plutôt rare.
On peut noter, puisque évidemment on n'a pas d'image là, que ces poètes ne sont peut-être pas lus, ils ne font pas des succès commerciaux, mais leur édition aux États-Unis c'est carrément reliée, encartonnée.
Il y a eu tout le temps des éditeurs courageux, et il y a par exemple aussi la traduction qu'il a faite, traduction homophonique de l'œuvre de Catulle.
Oui, ça faut en dire un mot, parce que c'est très étrange.
C'est-à-dire que c'est un texte dont l'anglais ressemble le plus possible au texte latin. Et c'est la seule...
Le sens ne compte pas, ce qui compte, c'est le son.
Le sens compte dans la mesure où il arrive à entrer dans cette règle-là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est homophonique, mais parmi les homophonies, on a beaucoup de choix, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, une homophonie, elle est jamais stricte et que c'est passé d'une langue à une autre, on a beaucoup de choix. Donc, dans ce choix-là, hein, soumis à cette violente contrainte, on fait rentrer le plus possible du sens qu'on peut.
Alors, vous connaissant Jacques Roubaud, on va penser que Zoukowski est un membre de l'Oulipo américain.
Alors, Zoukowski est un plagiat par anticipation de l'Oulipo de manière évidente. Cette traduction, le principe de cette traduction homophonique de Catulle a été indépendamment de Zoukowski, qu'il ne connaissait pas, repris par un des membres de l'Oulipo allemand, qui est Oscar Pasteur, qui a fait ça à partir des sonnets de Pétrarque. Pétrarca. Et donc, ce travail-là, qui est un travail, disons, oulipien, de manière évidente. Bon. Mais il se trouve que dans « et » aussi, il y a des choses comme ça. Chaque morceau de cet immense poème a un traitement formel propre. Et en ce sens, c'est toujours en référence et en opposition et en critique implicite de Pound, des canteuses de Pound. Et ces traitements formels sont très variés, ils bougent beaucoup. Il y a des fois où c'est du vers libre simple, narratif, et il y a des fois où il reprend des formes poétiques. Alors, le moment crucial de A, sans lequel on ne comprend pas, à mon avis, l'ensemble de la séquence, c'est le fameux A9, qui est en deux parties. Alors, pour saisir A9, je pense qu'il faudrait un séminaire très très long, parce qu'il y a la référence à Pound, la référence à Pound traitant le poète italien du Dolce Sinovo Cavalcanti, donc d'un poème de Cavalcanti, qui est la canzone doctrinale de Cavalcanti sur la théorie de l'amour, Pound fait une traduction dans laquelle il se débarrasse beaucoup des éléments formels, tout en faisant une recherche très profonde sur le sens philosophique de Cavalcanti. Et Zoukowski reprend ça en lui restituant complètement l'armature formelle de Cavalcanti. Mais au lieu de faire la canzone sur l'amour, il en fait une sur le capital. Donc il y a une référence à Marx dans la première partie et dans la deuxième partie sur la théorie de l'amour. Donc c'est un travail absolument insensé qui, en plus, il a écrit un texte très intéressant où il explique comment il a construit ce poème. Et ça, c'est, je dirais, c'est pas de l'oulipo, c'est de l'hyper-oulipisme.
On pourrait dire pour Zoukowski, en termes français, mais ça marche aussi en anglais, c'est tous les M, mathématiques, marxisme et musique, par exemple.
Un élan vers l'action propose une semblance de choses données en équité de dosage. La mesure, tout usage, étant glaciale en son effort, dans lequel l'abstraction et ses choses ne garde nulle ressemblance. Quant aux produits conçus, incluent tous apanages, cachent leur utilité de nature à un sien voisin ou l'un des leurs. Dès lors, étaient-elles les choses, aurait-il pu dire ces mots, la lumière est. Telle la nuit et telle nous quand nous rencontrons nos mentors. L'usage à peine interfère au cours de leurs échanges. Acheter à fin de vente les choses, notre dosage fait le change. Nous fuyons gens qui nous fîment un droit de telle fin qu'il est, où la vue est rompue au choix, elle nous induit à prendre, mais à voir nos centres ne montre pas les changements. Que de l'effort humain, notre dosage tient en éloignement.
Il existe trois versions. Trois versions. De la première partie de A9, la première en date, c'est la version d'Anne-Marie Albiac, qui est à la fois une traduction et un poème. C'est donc un poème qui est traduction et qui est un poème à partir de A9.
C'est-à-dire qu'elle a fait elle-même, par rapport à Zoukowski, une strate de plus.
Exactement.
Oui, d'accord. Exactement. Ce qui serait dans la logique, au fond.
C'est tout à fait dans la logique. Mmh. Il y a, agissant de la même manière, mais tout à fait différent, avec un résultat tout à fait différent, une version du grand poète brésilien Haroldo de Campos, On le sait mal, ces choses-là, mais il a fait ça aussi.
Au Brésil, enfin en portugais.
En portugais, oui. En portugais, qui est magnifique aussi. Hein. Les deux sont des poèmes très, tout à fait magnifiques, entièrement différents, hein, parce qu'ils ont choisi d'orienter le rapport à toutes ces strates de manière différente. Et puis, il y a une version que j'appellerais catastrophique, qui est celle de la traduction complète en cours de A par Serge Gavronsky et François Dominique. Eux, ils ont liquidé tout l'aspect formel du texte de Zoukovsky.
Zoukovsky, et en particulier son long poème A, parce qu'on peut le dire en français A, est une œuvre évidemment d'une extrême difficulté, qui pose des problèmes de traduction absolument phénoménaux, non seulement au niveau du décryptage, mais de la mise en forme. Alors, on peut toujours émettre des jugements, je dirais, extrêmes sur toute traduction qui suppose des choix, qui suppose une ligne générale d'écriture. Moi, je pense qu'il faut, surtout d'abord se féliciter qu'un traducteur et un éditeur aient pris le risque de cette publication qui est en cours, puisque le poème fait 600 pages au total à l'arrivée. Donc là, ils ont commencé. Je crois que c'est déjà important qu'une traduction intégrale soit en fabrication à l'heure actuelle. À partir de là, moi, je suis le premier placé pour savoir qu'on peut reprendre ces traductions. J'ai l'intention de retravailler prochainement sur Open, que j'ai traduit il y a déjà pas mal de temps.
Vous êtes un des premiers à avoir traduit cette poésie dans les années 80, donc à la suite de Fauchereau, Roubaud.
Oui, Claude Royer-Journoux avait traduit aussi quelques poèmes d'Open dans Argile. Disons que j'ai sûrement été le premier à le faire de manière un peu systématique, puisque j'avais traduit trois volumes. Mais je pense que on peut toujours revenir sur ces traductions. Il y a une forme d'imperfection dans la traduction par nature qui est injuste, parce que on n'a pas ce sentiment d'imperfection, en tout cas d'inachèvement perpétuel pour sa propre écriture. Ça ne veut pas dire qu'on soit satisfait de son écriture, mais il y a un moment donné où on sait que c'est terminé et que tandis que pour une traduction, il y a toujours quelque chose comme ça qui reste perpétuellement en suspens, et c'est assez ennuyeux.
À 11, donc dans la traduction de Serge Gavronsky et François Dominique, qui est paru chez Ulysse, fin de siècle.
Fleuve en crue qui dépasse ma mort. Chanson, ma chanson change la peine en musique. Pensée légère, mes amours, petite maladie, qui vire à la chamaillerie, et puis l'on pleure. Éteinte la lumière, laissez-la vous choyer. Briller dans le visage de mon fils, c'est un bel hommage. Tu t'évades, ma chanson, en d'aimables et riches louanges, où se dispense l'hommage qui ne saurait t'appauvrir. Veille, ma chanson, à l'empreinte des étoiles en toi, miroir frôlé de larmes d'où sortent des paroles, et de l'amour, le tien, au loin tourné vers tes étoiles, un or. Plus pur que celui de langue insensible à l'art neuf et qui blesse l'ancien. Révèle-nous la détente de l'arc quand meurt la bête élancée sur la flèche, fil d'or effilé où s'accrochent les cordes d'un violon cajolé pour me rendre hommage.
Et enfin, il y a Rakosi, alors lui qui habitait tout à fait ailleurs. Il habitait à Saint-Paul, à côté de Minneapolis. Et j'étais allé le voir. C'était une époque où je circulais allègrement à travers les États-Unis, en stop, en bus, un peu n'importe comment. Et puis bon, je me suis retrouvé à Minneapolis. Et je suis allé voir là Rakosi, qui m'a reçu très gentiment chez lui. Il était médecin.
était médecin à l'époque.
Comme Williams, oui.
Comme Williams, ouais. Sauf que le Williams s'occupait des enfants, mais et lui s'occupait l'autre s'occupait des adultes dérangés. Et voilà, et c'est le seul vivant encore aujourd'hui, il est très âgé.
Ah, il est toujours vivant, Rakosi. Ah, oui, je croyais qu'ils étaient tous morts.
Non, Rakosi...
Il est presque centenaire, alors.
Oui.
Hiver et vent, notre époque. Après-midi à faire, le tour de la maison. Un peu de neige, une tempête. Un trèfle dans la cour, une maison du bonheur. Anna Baz, pour les Delweiss. Six rivières et six grandes filles. Les 12 victoires.
Il est arrivé un tout petit peu après. Vous voyez, ça se passe un tout petit peu comme le surréalisme, où vous avez la trilogie Breton, Aragon, Soupeau, qui sont là les trois, comme vous auriez Zhukovsky, Oppen et Reznikov. Et puis, juste après, est arrivé un autre, qui était Rakosi, et qui avait eu une démarche un peu différente. Et dont l'œuvre est peut-être beaucoup plus inégale que celle des trois autres. Beaucoup plus inégale. Je parle de la poésie. Hein, et je crois que le pauvre Rakosi est très injustement méconnu.
Mais pourquoi on devrait laisser tomber Karl Rakosi, par exemple? C'est quelqu'un de mineur?
Je le connais moins.
Vous l'avez traduit?
Oui, bien sûr. Parce que, disons, à un certain moment, quand ils commencent comme ça, il y a vraiment une parenté beaucoup plus grande entre eux. Hein. Les premiers poèmes de Zhukovsky, les premiers poèmes de Rakosi, d'Oppen et de Reznikov, bon, il y a vraiment, à mon avis, plus de traits communs.
En attendant, il y a un moment qui doit être autour de 1930, 1931, qui est le moment presque... on dirait d'une avant-garde ou d'une constitution profondément avant-gardiste et qui va avoir des conséquences assez fortes. Et après, c'est le silence, essentiellement. Mais,
ils n'avaient pas prévu l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler. Hein. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire qui crée comme une bombe atomique tombant sur la poésie américaine. Hein. C'est évident. Le choix de Pound qui a posé des problèmes horribles à ses disciples. Il y a un très très beau texte, très vraiment très bien, parce qu'il n'est pas méchant, etc., de Zhukovsky sur Pound à la fin de sa vie, quand Pound est là, et qu'il a été rapatrié, mais il n'a quand même pas changé d'avis. Hein. Il est toujours antisémite et toujours... Bon. Alors, ça a posé évidemment aux objectivistes un problème grave. Et, bon, l'évolution de la société, il y a eu quand même pas mal d'années dans lesquelles la poésie américaine n'avait plus d'espace, ne pouvait plus respirer. Williams s'était ignoré complètement. Enfin, ils étaient tous dans le silence. Dans la génération de 1960, disons, les retrouve. Et là, il s'est quand même passé pas mal de temps.
Engagés. Oui. Au point qu'ils ont eu des ennuis.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas que maintenant. Enfin.
Ils ont eu des ennuis. Ouais. Celui qui a eu le plus d'ennuis, c'était Oppen, qui a dû fuir au moment du McCarthyisme, hein, et qui a vécu tant bien que mal au Mexique, et plutôt mal que bien, puisqu'on lui avait coupé les vivres, il n'avait plus rien que... C'est comme si on vous disait, à partir de demain, vous êtes bûcheron.
Oui, il vivait de quoi, au fait?
Oh, il a fait de la menuiserie, il a fait du camionnage, enfin, il a fait ce qu'on...
Oppen, oui. Zhukovsky.
Alors, Zhukovsky, lui, il a eu un obscur petit emploi jusqu'à la fin de sa vie dans un collège technique. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent, si vous voulez, nous, d'un petit collège de banlieue où il enseignerait à des garnements de 13 ans, vous voyez.
Rakosi,
lui, a été médecin, oui. Comme on l'a dit.
Mais médecin dans une petite ville.
Ah oui, enfin, dans la banlieue lointaine de Saint-Paul. Oui, dans presque assistant social. Et Reznikov, lui, a travaillé pour le cinéma.
Qu'est-ce qu'il faisait pour le cinéma?
Ah, bien, il a fait des dialogues, il a fait toutes sortes de choses.
Du travail alimentaire ou quelque chose qui... Parce que je...
Il était dans la technique.
Dans la technique.
Il était dans la technique du cinéma.
Dans quel branche enfin, je...
Vous savez, le cinéma, c'est très, très vaste. On en a parlé ensemble, mais...
Un homme d'image, de son, de montage, de...
Plutôt un homme de montage et d'amélioration des dialogues, des choses comme ça.
C'est drôle parce qu'on pourrait penser que cette relation à la technique n'est pas neutre vu qu'il y a un sens du montage chez les objectivistes.
Oui, oui, oui. Oui. Mais raconter des histoires chez Reznikov, contrairement aux autres, vous voyez, les histoires, c'est très important pour lui.
Amélia avait à peine 14 ans et sortait tout juste de l'orphelinat. C'était son premier emploi, à l'atelier de reliure. Oui, monsieur, oui, madame, oh oui. Elle avait tellement envie de bien faire. Debout devant la table, ses cheveux blonds flottant sur les épaules, elle faisait l'état pour les piqûrières, Marie et Sadie. Faire l'état. C'est compter les livres et les empiler pour qu'on les emporte. Il y avait 20 brocheuses, entraînées, par un arbre qui passait sous la table. À mesure que l'épicurière faisait passer les livres dans la machine, elle les jetait sur la table. Les livres s'entassaient. La contremaîtresse avait dit « Tu fais attention que rien ne tombe par terre. » Et Amélia se baissa pour ramasser les livres. Trois ou quatre avaient glissé à terre, entre les planches clouées au pied de la table. Elle eut l'impression qu'on lui tirait doucement les cheveux. Leva la main et sentit l'arbre qui tournait à toute vitesse et ses cheveux qui s'enroulaient autour, encore et encore. Puis l'arbre lui arracha le cuir chevelu et le sang lui inonda la figure et le haut du corps.
Chez les objectivistes, on pense à l'objectif de l'appareil photo. C'est quelque chose qui a permis de caractériser plus tard, pour les mêmes raisons, par exemple, les écrivains du nouveau roman, dans leur manière de décrire très précisément, je ne sais pas quoi, hein, une faille dans un mur, des choses comme ça. Alors, on trouve ça chez eux, chez Williams aussi. Donc, cet objectif voudrait dire qu'il y a presque une primauté du regard.
Oui, il y a une primauté, je ne sais pas, mais il y a une importance extrême du regard. Ça, c'est... C'est évident, vous faites une référence au nouveau roman. Je crois qu'il y a quand même une approche qui reste différente parce que d'abord, on n'est pas dans de la prose, donc on n'est pas dans un travail descriptif. On est dans un travail effectivement beaucoup plus photographique, c'est-à-dire qui relève beaucoup plus de l'instantané. Et on pourrait dire d'ailleurs presque d'une certaine façon que l'effort prosodique de Williams, que Open en particulier a beaucoup poursuivi, est un effort de cadrage aussi. C'est-à-dire un effort de non seulement la vue découpée dans le, comme je disais tout à l'heure, découpée dans la réalité et cadrée, c'est-à-dire elle a des bords. On en isole un fragment, un morceau, mais en plus, la façon dont le texte est cadré sur la page est une traduction de la façon dont ce regard est découpé. Donc il y a peut-être une sorte de va-et-vient, alors là, pour le coup, entre le fond et la forme. La grande différence avec la position, par exemple, objectale, comme on disait, qui était celle du nouveau roman, où il y avait une forme de neutralité, où l'homme était censé être absent, enfin s'absenter et tout, c'est que là, c'est l'inverse. Il y a au contraire une présence de l'humain au sens très large du mot, c'est-à-dire que ce n'est pas un regard objectif, justement. C'est, très curieusement, c'est un regard, au contraire, qui choisit et qui va mettre l'accent sur un détail, mais en le chargeant, en fait, de sens rien qu'à travers ce choix-là. Et je pense, enfin ça c'est ma position à moi, je pense que le travail d'écriture que ces poésies, ces poètes développent, les formes qu'ils adoptent ou qu'ils inventent pour traduire ce regard, est quelque chose qui est d'une grande profondeur justement, mais d'une profondeur quasi invisible. Si on s'en tient justement à la surface du texte, comme ça, posé sur la page, il y a toute une sorte comme ça de niveau, d'épaisseur, voilà, d'épaisseur.
Maintenant, nous traversons le pont. Je le sens au bruit que font les roues au-dessus des eaux. Cette nuit, on ne voit rien par la vitre, mais il y a des lumières sur les deux rives. Et si on ouvre la portière, le vent de l'eau fait entrer la brume qui nous couvre.
À présent, nous franchissons le pont. Je le devine au son que font les roues par-dessus l'eau. Ce soir, on ne voit rien derrière les vitres, mais des lumières brillent sur les deux rives. Et si l'on ouvre la portière, la brise marine souffle à travers la brume qui nous recouvre.
Alors évidemment, de la même manière que ceux qu'on traite d'objectifs finissent par dire que ce qu'ils recherchent, c'est la subjectivité, si on parle de primauté du regard ou d'importance du cadrage et de la vue, on en vient immédiatement à penser au monde sonore et à s'apercevoir que toute cette poésie, au fond, est en mouvement, et ce mouvement est souvent un mouvement lié au son.
Oui, mais elle est assez... il y a un effort aussi quand même vers la tonne, si on peut dire, hein, vers quelque chose d'assez neutre. En tout cas, dans l'élan d'écriture...
Sans vibrato...
Oui, voilà, il y a quelque chose. Évidemment, c'est chez Reznikov que c'est le plus impressionnant. C'est pas d'ailleurs pour rien, justement, comme on disait, qu'il a tant intéressé au quart. C'est-à-dire, c'est aussi parce que c'est l'anti-musicien, malgré le très beau livre qu'il a fait,
qui s'appelle Le Musicien, qui est un roman.
Oui, qui est un récit absolument remarquable. Mais justement, le travail de mise à plat. Alors que, comme on le disait, chez Zoukovsky, le principe d'écriture est beaucoup plus dans une logique sérielle. Enfin bon, chez Open ou chez Rakosi, par exemple, là, ils sont assez semblables l'un et l'autre. C'est vrai qu'il y a aussi un effort de dédramatisation dans le langage. La dramatisation, elle se porte sur la prosodie, mais jamais sur le texte lui-même, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dramatisation dans la mise en place, comme ça, dans l'espacement, mais il y a un rejet, effectivement, du rythme musical, hein, de la musicalité de la langue. Il y a quelque chose qui est effectivement très clairement au moins interrogé, au moins il s'en méfie, ça c'est évident, il s'en méfie beaucoup les uns et les autres.
Jacques Roubaud, Zoukovsky finalement passe peut-être pour un poète, on dirait hermétique, hein, si on va un peu vite, en tous les cas difficile. Et en même temps, c'est une poésie que je dirais relativement musicale, ce qui peut paraître un peu... Bon, c'est pas, on emploie toujours le mot musical à tort et à travers... Enfin, je veux dire, pour la poésie, c'est d'un emploi facile, mais je veux dire par là que c'est quelque chose qui sonne et qui s'écoute.
Bon, de toute façon, son lien à la musique est considérable. Dans A, précisément, il y a de la musique qui est introduite. Il a constamment vécu avec la musique. Sa femme est musicienne aussi. Donc, il y a tout ça. En plus, dans sa poétique personnelle... Il y a une très belle définition dans laquelle il dit que la poésie est une sorte d'intégrale. Il met le signe d'intégrale. Et pour les intégrales, on a le point de départ, qui est la borne inférieure, et le point d'arrivée, le point du haut, qui est la borne supérieure. Et il dit le point de départ, la borne inférieure, c'est la parole, speech, et le point d'arrivée, la musique. Et la poésie est une sorte d'intégration de la parole en musique. Et ça, c'est une très, très belle définition, de la poésie, comme Zoukovsky la comprend. Ce qui fait qu'on a, quand on écoute soit les poèmes courts, soit des passages de... Et précisément, quand on va d'une section à une autre, il y a différentes voix. Hein. C'est quelquefois de la musique très, très heurtée, très, très dure. Dans d'autres fois, c'est incroyablement harmonique. Hein, précisément dans les derniers, je pense que c'est A23, c'est hyper musical.
Paul quand les feuilles tombent de leurs tiges qu'elles s'étalent sur la promenade, dans la lumière de la pleine note, la lune qui joue pour les feuilles quand elles quittent les petites choses fines, Paul.
Et Laurine Nidecker?
Ah, elle est arrivée bien après. Elle est arrivée après la guerre.
Pourtant, elle était du même âge.
Oui, mais elle est arrivée bien après.
C'est le centenaire. On fêterait son centenaire cette année si elle était toujours vivante.
Alors, elle, je ne l'ai pas connue. J'ai connu son œuvre très tôt. C'est un Anglais, d'ailleurs, qui avait édité ses œuvres. Pas du tout un Américain. Et... Reznikov m'avait fait cadeau d'un petit livre qu'ils avaient fait publier à quelques copains pour lui offrir à elle. Enfin, des vieux messieurs offrant un petit livre à une vieille dame. Je trouvais ça extrêmement touchant.
Je lis un court poème qui a été publié dans un numéro d'Action Poétique consacré à Laurine Nidecker. C'est très court, ça donne « Mesdames, messieurs, 10 plumes de canard mort sur des boîtes de bière écrasées. L'hiver va changer tout ça. »
Oui.
C'est quand même assez extraordinaire. On est proche du haïku.
Ouais, ben là, j'en avais traduit en 68. Et en voilà un autre qui s'appelle Poème. Automne, nous devons tirer les rideaux. Nous n'avons pas de feuilles.
Oui, on est très proche finalement de la poésie japonaise.
Oui, oui.
Et on pourrait dire d'ailleurs que ce mouvement, l'objectivisme, a des résonances dans le passé, en fond.
Oh, bien comme tout mouvement important, il se projette assez profondément dans le passé, il se projette en avant et surtout il s'occupe du présent. Et eux se sont vraiment occupés du présent qui était le leur.
Alors ça me fait penser, on a pu définir l'objectivisme en 1931 comme une avant-garde, mais on peut dire aussi qu'il y a une sorte de retour ou de réflexion sur des choses du passé. Et on pourrait penser que même ce que disait Williams, pas d'idées sauf dans les objets ou à travers les objets, ça rejoint les principes de la poésie japonaise ancienne. Enfin, je veux dire, il y a des exemples, enfin.
Ce n'est pas par hasard, parce que, bon... Évidemment, il y avait l'intérêt de Pound. Il faut dire que le Pound découvreur a été aussi un exemple fondamental pour eux. Ils ont suivi son exemple en allant chercher ailleurs. Zhukovsky est allé chercher Catulle. Enfin, ils sont tous allés. Si on regarde les meilleurs poèmes de Nidecker, la parenté avec le haïku est énorme. Enfin, donc, c'est évident. Donc, Zhukovsky lui-même va, à cause de Pound, en suivant l'exemple de Pound, va chercher Cavalcanti, par exemple. Et Pound avait lu Les Troubadours. C'est un des problèmes de Pound, parce qu'avec tous les défauts qu'il a, c'est quand même un incroyable lecteur et déchiffreur. Et puis il saisit les choses, bien que sa cécité formelle le rend incapable de porter ça jusqu'au bout. En un sens, on pourrait dire que d'un certain côté, Zhukovsky, c'est un Pound abouti.
J'ai l'impression qu'il y a comme une tension entre la volonté, enfin un travail sur l'histoire et une recherche formelle. Les deux devant se lier, mais il y a souvent des frottages, des oppositions, et c'est ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas.
C'est-à-dire que les objectivistes ont aussi une leçon de ce point de vue, c'est-à-dire que alors qu'ils étaient au départ des gens qui étaient sur des positions très ultra-gauche, enfin très à gauche, révolutionnaire et tout ça, aussi bien Open qu'il était effectivement que Zhukovsky, ils n'ont jamais fait de la poésie engagée, lamentable, comme elle a envahi l'Europe et le monde dans les années 30. Ils ne sont jamais tombés dans ce piège-là.
Il y a quelques citations de Lénine chez Zhukovsky.
Pas seulement de Lénine, de Staline aussi. Staline, oui. Il a été un admirateur de Staline. Et le problème n'est pas là. C'est-à-dire que dans leur poésie, ils sont restés absolument intègres.
Ils ont séparé, d'une certaine façon, le citoyen de l'écrivain. Quand Zhukovsky vous parle de Lénine, il vous parle d'un fait historique. Il ne fait pas une apologie, il ne vous dit pas « c'est un grand homme, nous devrions tous être communistes ». Il ne vous dit pas ça, pas du tout. Pas plus que si Farrell arrive pour présenter Trotsky, c'est pas pour dire voilà le plus grand homme, c'est pour dire il est interdit aux États-Unis, on n'a pas le droit d'interdire à un homme de parler, quelles que soient ses idées. Et c'était pas le Trotsky, c'était pas du tout les idées de Farrell, hein, pas du tout. Donc c'est au nom de la liberté de parler, c'est une attitude voltairienne, si vous voulez. Il y a là quelque chose de, où je rejoins Roubaud, où c'est très noble de leur façon. Ils ne se sont jamais abaissés à faire, si vous voulez, de la littérature de propagande. Voilà, c'est le mot qui convient.
Désastre des guerres au vent de l'Ouest, tornade politique, je suis là de la vanité des poètes, légistes de l'inavoué, il est bien lourd d'avoir une ascendance et d'être un étranger, et quelle ascendance du reste, puisque nous avons fini par être étrangers sous ce vent qui se lève comme un don dans ce tumulte, tornade de la vanité poétique, si notre histoire doit prendre fin, non dite, et de qui ou de quoi sommes-nous descendants? Nous voulions savoir si nous étions bons à quelque chose ici-bas. Le champ tourne, le vent a balayé le sable. Nous sommes seuls, la mer remonte et le soleil sur le vert, rude, cristal, lumière, riveraine à l'extrémité des sables éblouissants dans cette marche si brutale et si proche sous la lumière, le vent, le feu, l'eau, l'air, les cinq éléments clairs, merveille de l'évidence et du caché, cela fait-il d'ailleurs la moindre différence, danse des ailes de la guêpe, danse des langues mères, mais peuvent-elles, dans toute la richesse de leur sens, danser ? Oh, je te vois, mon amour, je te vois, seul sur le glacier, et je me vois, Sarah, Sarah, je vois la tente, dans le désert, ma vie s'amoindrit, ma vie est autre, je le vois, lui, dans le désert, je le vois, il est seul, et si gauche, mon jeune frère, ma sœur perdue, sa tendre voix au sein du peuple, les terribles collines de celles d'où les armées partirent, et les cavernes du peuple cachées.
Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de résonance en France des objectivistes chez les poètes? Notons quand même parmi les traducteurs de ces objectivistes, et puis aussi de Paon et de Williams, avant, ce ne sont pas n'importe qui.
Bon, alors,
c'est quand même dans la position française certaines de figures majeures.
Évidemment, si on prend ça historiquement, il est certain que, par exemple, Roubaud a fait un recueil tout à fait remarquable il y a une vingtaine d'années qui s'appelle « D'or ». Qui est explicitement d'ailleurs dérivé de Williams et des objectivistes au niveau du travail d'écriture. Il est certain, bon, c'est un secret pour personne, que tout le travail d'Emmanuel Occart, en tout cas à un moment donné, est largement héritier, en tout cas d'une partie de cette poésie américaine et des objectivistes notamment. Il a quand même beaucoup, lui aussi, il est beaucoup intervenu, je dirais, sur cette question. Des poètes comme Claude Roy-Journoux, Jean Dève, ce sont très clairement Anne-Marie Albiac, bien sûr, enfin, toute cette mouvance-là, dès le départ, ont revendiqué les objectivistes, et surtout Oppen et Zoukowski, comme, disons, des sortes de maîtres, même si, je dirais, la filiation n'est pas forcément d'une grande clarté. Enfin, je veux dire, je pense que, par exemple, l'œuvre de Jean Dève, qui est une œuvre vraiment en expansion, est assez différente, par exemple, du resserrement qu'on peut observer chez Oppen. On peut voir, moi, je ne sais pas, je pense que dans l'œuvre poétique de Paul-Louis Rossi, il y a un travail qui est une économie, justement, dans la construction prosodique, qui est un resserrement, comme ça, qui est sans doute assez voisin de cet héritage-là aussi.
trois mots, qu'est-ce qui caractériserait chacun? Quelle serait la définition minimale du travail de chacun, Yves Limano?
Ça, alors là, c'est bien difficile à dire. Je dirais que Zoukowski est beaucoup plus dans la musique, enfin, est beaucoup plus quelqu'un pour qui le travail poétique a à voir avec la musique. La musique, c'est-à-dire la composition musicale, entendons-nous bien. Je pense que Reznikov est quelqu'un qui a essayé d'être le plus prosaïque possible. Je pense que Open est quelqu'un qui est du côté de la pensée, de la philosophie, intrinsèquement, enfin de la réflexion, je dirais, au sens très large du terme, c'est-à-dire aussi bien sur les questions éthiques, politiques, que même sur les questions métaphysiques, curieusement. Enfin, c'est quelque chose qui le tracasse beaucoup. Par contre, c'est également le plus, à mon sens, hein, et à mon goût, celui qui va le plus loin dans la révolution formelle.
Rakosi.
Rakosi est dans l'ironie. Et beaucoup plus quelqu'un qui travaille une forme d'ironie, d'humour, si on peut dire, un peu acide, un peu aigre, comme ça. Ce qui est beaucoup plus étranger aux trois autres.
C'était tous des gens d'origine juive. Et c'était des gens issus de minorités, puisque Fearing, je ne sais pas quelle était l'origine de Fearing, mais Farrell, c'est irlandais, le pauvre irlandais de Chicago, et bon, donc c'était des gens d'origine modeste.
Certains d'origine russe.
Oui, ou de Biélorussie, ou de choses comme cela, oui. Mais bon, de vieilles familles quand même.
N'empêche qu'actuellement, quand on parle des objectivistes, et c'est sans doute le but de cette émission, hein, de les faire reconnaître un peu plus, davantage, c'est quand même pas aussi important dans la connaissance que nous avons du XXe siècle que les surréalistes ou les dadaïstes.
C'est parce que c'est beaucoup plus difficile.
Voilà la grande raison. Une difficulté de lecture.
Ah ben oui, 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 oui. Il y a une immédiateté dans les... Puisque pas le surréalisme de... Breton, bon, alors là, nous n'en disons rien parce qu'il est maintenant béatifié, et donc on ne peut plus rien dire, mais même si vous regardez et Le Hard, on l'étudie à l'école, hein, Desnos a écrit un petit nombre de poèmes qui sont célèbres, mais déjà Perret, beaucoup moins, hein, celui-là est beaucoup trop sulfureux pour qu'on le mette dans les mains des écoliers, hein. Il a écrit contre les anciens combattants, contre l'Église, contre la maternité intempestive. Enfin, voyons, c'est pas sérieux, ça. C'est, voilà un homme qu'on ne peut pas montrer à tout le monde. Et ces objectivistes, d'une part, ils n'avaient pas des idées orthodoxes. Ce sont des gens qui ont su dire non. Et aux États-Unis, on n'aime pas ça. Et ils l'ont dit obstinément. Ce n'était pas ponctuel, comme au moment d'une guerre du Vietnam. Ils l'ont dit pendant de longues, longues années. Ils ont su dire non. On n'aime pas ça. Et de toute façon, leur poésie est assez difficile. Ce n'est pas comme les poèmes d'amour de Desnos, qui sont sans doute très beaux, mais qui sont d'accès facile, vous voyez.
Je crois, Serge
Faucheroux. Open, c'est pas simple.
Je crois, Serge Faucheroux, que dans votre livre qui était paru aux éditions de Minuit à la fin des années 60,
qui est maintenant chez Somogy,
vous dites que l'objectivisme est le premier mouvement poétique authentiquement ou spécifiquement américain.
Oui, c'est vrai. Parce que ce qu'il y avait eu avant, c'était né en Europe ou en Angleterre, pour être plus précis. L'imagisme est anglo-américain. Il y avait plus d'anglais que d'américains dedans. Même si un homme comme Pound y était essentiel, et même si le meilleur écrivain du groupe, c'était... Hilda Doolittle, H.D., qui est la meilleure imagiste, c'est né à Londres. Donc, les objectivistes, eux, c'est des Américains, rien que des Américains. Avec un vague écossais qui était un copain d'eux, Basil Bunting, qui était avec eux. Mais c'était un ami, un associé comme ça.
Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la poésie américaine, comme on peut dire que la peinture de Jackson Pollock ou de Mark Rothko est de la peinture américaine?
Oui.
Et non plus de la peinture européenne,
oui.
Ou que la musique de Martin Feldman ou de John Cage est de la musique américaine?
Je crois qu'on peut le dire.
Alors le ciel se met à tournoyer sur son moyeu. Le soleil, chaque feuille pivote sur sa tige. Alors le fléau des montres et des pendules entaille la journée. 10 000 milliers de pas piétinent l'aube. 10 000 roues se croisent et s'entrecroisent dans la lumière et quittent leurs ornières en traversant le jour. Les pendules s'égrènent dans chaque chambre. Nos vies s'enfuient d'ici comme de là, et la clarté du jour se réfugie dans les étoiles. Si mes jours étaient semblables aux fourmis, je pourrais transporter cette montagne. Et donc, il faut que vous me soyez précieuse, seconde. Qu'ils frappent en marchant sur vous autant qu'ils peuvent. Je finirai par m'échapper pourvue de quelques graines.
On peut penser que cette influence va continuer. Elle va continuer. Ce n'est pas quelque chose qui n'a été qu'un moment et qui va disparaître. Au contraire, elle ne va qu'augmenter. Et par exemple, la situation qui a toujours de grands déséquilibres entre Pound, du point de vue de la notoriété, entre Pound et Zoukowski, à mon avis, va se rééquilibrer. Je ne veux pas dire que Pound n'est rien. Hein. Loin de moi, cette idée.
Il faudrait argumenter ça très longuement.
Mais il n'est pas tellement au-dessus de Zoukowski. Alors, Open est celui qui peut-être a, il me semble, le plus de résonance chez les poètes américains de la deuxième moitié du XXe siècle, enfin des dernières années du siècle. Et pour ma part, bien que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je trouve qu'il a il a quand même rejoint une autre tendance de la poésie américaine que j'aime moins, c'est la tendance moralisatrice.
C'est-à-dire, en fait, c'est parce qu'il était très engagé politiquement que
non, mais il était très engagé politiquement du côté communiste. Hein. Oui. Puis ensuite, il a dû s'en aller à cause du McCarthy, mais il a vécu au Mexique. Il avait arrêté quasiment d'écrire et il a recommencé. Quand il a recommencé avec un point de vue différent sur les choses, il a écrit de très beaux poèmes, mais il y a quand même, de plus en plus, à mesure qu'il vieillit, il y a une leçon. Et cette leçon, elle est souvent explicite. Et ma foi, elle n'est pas toujours... c'est pas toujours ça. Peut-être c'est mieux dans sa correspondance ou dans ses textes en prose. Par exemple, il y a des choses qu'il a prises dans les événements, toujours pour le système, un peu le même système des objectivistes, qu'il a pris dans les événements qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a un exemple tout à fait remarquable qui a été utilisé très récemment par Marcel Cohen dans son livre « Fait ». Où il décrit un événement de la Seconde Guerre mondiale en France. Et là, c'est visiblement l'œil du poète objectiviste qui fait donner tout son sens à cet événement. Et ça, indépendamment de la leçon morale.
The building of the skyscraper. The steel worker on the girder learned not to look down and does his work. And there are words we have learned not to look at, not to look for substance below them. But we are on the verge of vertigo. There are words that mean nothing, but there is something to mean. Not a declaration which is truth, but a thing which is. It is the business of the poet to suffer the things of the world and to speak them and himself out. Oh, the tree growing from the sidewalk. It has a little life sprouting little green buds into the culture of the streets. We look back 300 years and see bare land, and suffer vertigo. La construction du gratte-ciel. L'ouvrier sur les poutrelles d'acier a appris à ne pas regarder en bas, et il travaille. Et il y a des mots que nous avons appris à à ne pas regarder. Nous ne cherchons sous eux aucune substance, mais nous sommes au bord du vertige. Il y a des mots qui ne signifient rien, mais il y a quelque chose à signifier. Non une déclaration qui soit la vérité, mais une chose qui est. C'est l'affaire du poète de souffrir les choses du monde, d'exprimer leur substance et la sienne. Oh, l'arbre poussé dans le trottoir, il possède un peu de vie et laisse germer de jeunes bourgeons verts dans la culture des rues. Regardant en arrière sur 300 années, nous voyons un pays nu et nous souffrons du vertige.
Sacha Fauchereau, quelle est leur place aujourd'hui aux États-Unis, vous qui connaissez bien la situation, la place des poètes, et qui connaissez bien d'autres poètes plus jeunes, que vous avez rencontrés là-bas?
Ils sont devenus des classiques.
Mais réellement dans les faits, c'est-à-dire qu'ils sont lus comme des classiques, étudiés
oui,
comme des classiques?
Oui, il y a des éditions, des variétures, il y a des éditions commentées, bon, c'est... C'est plus discuté, quoi, maintenant. Ils sont là. On les connaît ou on ne les connaît pas, mais ils ne sont plus discutés. Ce sont des classiques.
Ça reste toujours neuf, Yves Dimano?
C'est
devenu classique. C'est peut-être la même chose, d'ailleurs.
Tout devient classique, c'est-à-dire tout devient commun. C'est l'idéal, je dirais, d'une œuvre qu'elle finisse par devenir commune, un lieu commun. Sinon, on peut dire qu'une œuvre a raté son coup si elle ne devient pas un poncif, comme disait Baudelaire. Donc c'était quand même l'ambition, créer un poncif. Dans ce sens-là, je ne sais pas du tout, je pense même le contraire. Je ne pense pas que les objectivistes, soit collectivement, soit individuellement, aient voulu créer des poncifs. Mais la façon dont on les a regardés, lus, traduits, détournés, à la limite des fois en France, participait effectivement d'une volonté d'éclairage ou de révision de notre propre approche, qui effectivement, à mon avis, a quand même porté ses fruits peu à peu. Mais on peut aussi tout reprendre de zéro et considérer, par exemple, qu'on peut les relire autrement, qu'on a peut-être un peu trop vite fait l'économie de leur dimension politique, de la dimension historique aussi de leur travail, enfin du contexte, je veux dire, historique dans lequel ces œuvres sont nées et qu'elles reflètent, quoi qu'on en dise, enfin, quelle que soit la théorie littéraire qu'on ait, ça reste quand même une réalité. Donc tout ça, c'est des choses qui pourraient être parfaitement rééclairées autrement. Et puis, je pense qu'il faudrait surtout s'intéresser de plus près à ce qui les sépare, qu'à ce qui les unit. C'est-à-dire, on est quand même devant, on dit les objectivistes, mais en fait, on est devant des œuvres tout à fait autonomes, tout à fait singulières, même les unes par rapport aux autres.
Surpris par la nuit, les objectivistes américains, par Christian Rosset, avec Serge Fauchereau, Jacques Roubaud et Yves Dimano. Lectrice, Emmanuelle Marchadour. Réalisation, Philippe Bredin, Mathieu Leroy, Ghislaine David. Texte de Georges Open, William Carlos Williams, Louis Zoukowski, Charles Reznikoff, Karl Rakosi et Laurine Nidecker, dans les traductions de Claude Royer-Journoux, Valérie Rouzeau, Jacques Roubaud, Yves Dimano, Serge Fauchereau, Anne-Marie Albiac, Serge Gavronski et François Dominique, Anne Talvaz, Sarah Kerina et Aux Meri.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 avril 2003.